Psaume 14, chers amis, l'Éternel Dieu des cieux, verset 2, l'Éternel Dieu des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Voilà. Je pense que c'est extrêmement intéressant de se rendre compte que Dieu est à notre recherche, comme il était à la recherche d'Adam et Ève. Tout le monde est sous l'objet de la recherche de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important, mes amis. J'ai insisté assez, déjà dans les messages précédents. La dernière fois, je vous ai parlé de l'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs, pour que ce soit notre partage avec les autres, et surtout pour les enfants, pour que ce soit une cascade qui rafraîchisse le cœur des enfants, qui éblouisse leurs âmes. Alors, en deux temps, je voudrais parler de ceci. L'amour humain, le couple, pour apporter le bénéfice de cet amour aux enfants. La deuxième chose, comme nous ne sommes pas dans une situation puritaine, idéale, il n'y en a pas sur Terre, il est évident que beaucoup de parents aujourd'hui ont connu le divorce, la séparation, deviennent chrétiens ensuite. Et la situation n'est pas facile. Mais je voudrais donner un message d'espérance, un message réel, réel, pour la plupart des personnes qui aujourd'hui ont connu le drame de la séparation et qui ont de l'affection pour leurs enfants, de l'affection pour leurs petits-enfants, et qui ont connu Jésus-Christ après. Donc, je présente les textes bibliques, et puis je présente après ma pensée concernant plus ou moins la réalité de 3 personnes sur 4 que je fréquente. Parfois c'est 9 sur 10. Et je ne me permets pas dans la deuxième partie, dans la première partie, de culpabiliser et de donner un message qui donne l'impression « j'ai tout raté, j'ai tout, j'aurais dû faire autrement, etc. » Et puis les personnes qui entendent chutent, n'ont plus d'espoir. Ce n'est pas mon but. C'est simplement de rappeler les principes divins pour l'amour humain et quelle est la pensée de Dieu pour l'amour dans une famille et vis-à-vis des enfants. Donc, nous prenons la Genèse. Et dans la Genèse, nous voyons que Dieu a créé, au chapitre 1, l'homme à son image. Verset 26, Dieu dit, donc Elohim c'est au pluriel, et puis Dabar, c'est le Dabar, c'est au singulier, c'est le Christ hein, qui est porte-parole de la Trinité. Faisons l'homme à notre image, vous voyez, faisons, c'est un pluriel. L'homme à notre image, notre aussi c'est un pluriel, alors que Dieu est unique et un seul, ben, il est pluriel en même temps. Ça, c'est le mystère pour beaucoup de monothéistes qui n'arrivent pas à comprendre les chrétiens qui disent qu'il y a la Trinité. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance qu'il domine, etc. Donc, le rôle de l'homme et de la femme, c'est d'être les maîtres à la suite de Dieu, mais dans l'amour, dans la responsabilité et dans la sainteté. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Brièvement, rappelez-vous Colossiens 1,15, le Christ est l'image du Dieu invisible, et tout a été créé par lui, pour lui et en lui, les choses visibles et invisibles. Donc, quand Dieu crée, le moteur, le principe créateur, c'est le Christ, notre Seigneur. Si nous allons plus loin, dans Genèse 2, alors que tout est déjà créé, du chapitre 2, versets 1 à 4, tout est fait, mais on reprend le principe du fonctionnement de l'homme et de la femme, qui ont déjà été créés, et on explique le mystère de l'homme et de la femme. Qui ont ? Bien sûr, c'est Dieu. Le Saint-Esprit qui a révélé cela à Moïse quand il a écrit ce texte. Alors, au chapitre 2, verset 21, « L'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. » Ce n'est pas une côtelette, ce n'est pas un morceau d'os. Ce zé-là, c'est de son intérieur, de son intériorité. Et c'est autant physique que moral et spirituel. « Referma la chair à sa place. » L'Éternel, Dieu, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est haut de mes os, chair de ma chair. Donc le texte nous enseigne qu'il y a une profonde connexion entre l'homme et la femme. Il y a quelque chose d'indestructible. Il y a une identité, autant physique que morale et spirituelle, en Dieu. En Christ. Et cet homme qui dort, c'est un homme qui va se réveiller. Et il va se rendre compte que Dieu a amené une femme tout près de lui. Et donc, pourquoi a-t-il dormi ? Mais parce que tout simplement, c'est ça le principe de la sexualité au sens vraiment spirituel et chrétien. La sexualité, c'est la soif de découvrir l'autre, de le connaître. Et comme il y a eu un sommeil profond, il faut toute la vie à un homme pour connaître sa femme. Une femme. Comme la femme, elle, va vers l'homme, parce que Dieu l'y pousse, l'homme doit accepter la femme que Dieu lui a donnée. Et il est clair qu'il n'est pas le maître du jeu. L'homme n'est pas le maître du jeu, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ni la femme. D'ailleurs. Alors, au verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, il y a une rupture avec la famille. Vous vous rappelez que quand Jésus dit qu'ils sont mes frères et mes sœurs, etc., ceux qui font inventer de mon père, Jésus a le même principe. Il y a une coupure radicale avec les liens du sang, les liens du clan, les liens de la culture, pour être en Christ et être en Dieu. Quand vous prenez Genèse 12, Abraham est appelé à quitter la Chaldée, le sud de l'Irak, pour venir en Judée. Il fait un long voyage et Dieu lui promet, lui dit de tout quitter, sa culture, la religion, toutes les influences de l'époque. Et quoi d'autre ? Dans les textes en profondeur, en hébreu, c'est « renonce à tout ce qui est comme racine ». Spirituel et culturel de ton pays. Renonce à tout ce que tu as, ton héritage. Je t'en donne à un autre, autant matériel, le territoire, que des troupeaux, que des descendants, mais aussi une nouvelle nature intérieure, un nouvel être, une nouvelle foi. C'est toujours le même schéma, Dieu veut faire quelque chose en neuf. Voilà le principe. Et donc, dans Genèse chapitre 2, verset 24, l'homme quitte son père et sa mère, et la femme aussi, hein, parce que Dieu veut faire quelque chose à neuf. Il a un principe créateur sur le couple, dans le couple. Et puis ensuite, avec le couple, un principe créateur de collaboration sur la terre pour la durée des époux. Et il est évident que l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, une seule humanité. Donc l'homme ne s'attache pas à d'autres femmes. L'homme ne s'attache pas parce qu'on voit bien qu'il y a Zéla, il y a une seule côte au verset 21, il y a une seule qui est sortie de lui, une seule qui revient en lui, par lui. Donc il faut faire attention. Le mariage se base sur la rupture de l'identité parentale pour créer une nouvelle identité, le couple, et fonder ensuite l'identité de père et de mère. Mais il y a aussi une chose, c'est l'amour, l'attachement irréductible et une humanité partagée. Une humanité, c'est-à-dire corps, âme, esprit, pensée et force. Souffrance et joie. C'est tout cela dans le programme divin. Vous pensez bien que quand un enfant trouve devant lui des personnes qui sont attachées de cette manière, entre eux, de cette manière-là, entre le papa et la maman, il y a cette attache, cet esprit-là, cette communion-là, l'enfant est profondément marqué. Il a un héritage, il a une fondation en béton déjà en naissant. Il va peut-être la renier après, ça c'est sa liberté, mais il a une fondation en béton. Ce que beaucoup de jeunes n'ont pas actuellement dans notre société. Si nous prenons dans les textes qui suivent de Genèse, eh bien, le péché va mettre un drame. Au chapitre 3, c'est que l'homme et la femme vont s'accuser l'un l'autre. Ils vont s'accuser. Au chapitre 3, verset 12, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc il accuse la femme, et en quelque sorte Dieu aussi, qui lui a donné la femme. Il ne manque pas de toupet. C'est de la lâcheté. Ensuite, l'Éternel Dieu dit à la femme, verset 13, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit, j'en ai mangé. » Est-ce que vous m'entendez toujours à Limoges ? Allô ? Il faudrait...
Oui, je t'entends.
Ah bon, ça va, ok.
Oui, on t'entend.
Okay. Je pensais que j'étais interrompu. Alors, la femme accuse Satan, et la force de séduction de Satan est dénoncée, bien sûr, elle est effective d'ailleurs, mais comme si elle n'avait pas de responsabilité dans l'affaire. Tout ça nous montre bien qu'il faut se méfier dans les histoires de couple. Nous cherchons toujours un fautif, un bouc émissaire. Et nous avons souvent, quand ça va mal, un esprit de démission et un esprit d'accusation. Tout ça, ce sont des formes, des aspects du péché. Et c'est bien sûr la division qui règne. Cette division-là va rester dans le cœur de l'homme et de la femme. Et au chapitre 4, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut, elle enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Quand il y a accusation et division, il y a un conflit que Dieu n'a jamais voulu. C'est un conflit dû à la nature pécheresse qui s'est installée entre l'homme et la femme et en chacun. Et vous voyez, la femme dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle n'a pas dit, Dieu nous a donné un enfant. Nous avons reçu un enfant, il a été formé par Dieu en nous. Non, c'est l'appropriation de l'enfant. L'appropriation de l'enfant est souvent, je reviendrai à ça plus tard dans l'exposé, c'est que quand le couple va mal, s'il y a plusieurs enfants, 4 ou 5, la personne qui souffre le plus, soit le papa, soit la maman, ou les deux le font, ils cherchent dans un enfant un complice contre l'autre conjoint. Pour être plus fort, à deux contre le conjoint. Il cherche un allié. Et effectivement, cet enfant va devenir un allié, mais ça va le perturber. Ça va dénaturer son comportement. Et plus tard, il sera jaloux à l'égard d'Abel et il va le tuer. Donc, vous voyez au verset 8, Caïn adressa la parole à son frère, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La colère peut aller jusque-là. La colère et la haine peuvent aller jusque-là. Et pire, l'outrecuidance, l'arrogance à l'égard de Dieu. C'est au verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Dieu le savait, bien sûr. C'était pourtant de la perche à Caïn pour qu'il demande pardon. Il demande pardon. On s'explique. Il répondit, « Je ne sais pas. » Donc il ment. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Donc il y a un mensonge devant Dieu, et la deuxième chose, suis-je le gardien de mon frère ? Actuellement, dans notre société, c'est ça qui se passe. Plein de personnes n'estiment pas être responsables pour les autres. Et le narcissisme, l'égocentrisme, etc., et notre civilisation est basée là-dessus, par rapport à des tas d'autres pays qui s'appauvrissent continuellement. Alors, dans nos couples, dans nos familles, ce drame va rester. Suis-je le gardien de mon épouse ? Suis-je le gardien de mon mari ? Il y a une espèce d'insurrection. Je l'ai supporté 20 ans, c'est bon, hein? Hmm? Alors, il y a quelque chose qui est là, qui est larvé et qui est dans le cœur de tous les descendants d'Adam et Ève, évidemment. Et nous voyons dans tous les textes ici, qui vont suivre, qu'il y a, en général, c'est un homme et une femme dans les couples, mais, à un moment donné, au verset 23, Genèse 4, 23, ça y est, les mecs a plusieurs femmes, Ada et Tsila. La polygamie s'est installée. J'ai logé chez nous un homme qui venait de la bande de Gaza et qui était un homme rude. Et puis il était un centre de réfugiés, il est venu souvent chez nous, il était très adroit, il réparait les vélos moteurs, il y avait un monde fou chez nous, il était toujours très utile. Mais je lui donnais de l'argent parce qu'il n'était pas converti, je ne voulais pas avoir de problème avec lui. Je le payais. Et ce qu'il y a, je lui dis, mais combien de femmes as-tu ? Ben, j'en ai une en Ukraine et j'en ai deux dans la bande de Gaza. Mais dans la bande de Gaza, de là où tu es parti, comment tu faisais ? Ben, j'ai deux maisons, il y en a une dans chaque. Oui, mais elles se disputent, elles se jalousent. Ah oui, mais ça... Et puis il me montre ses points, les deux points, il dit, je règle ça avec ça. Donc il les frappait, il cognait, les femmes se soumettaient, entre guillemets, se taisaient, mais la haine était dans leur cœur évidemment. Quand il est parti, il a retrouvé une troisième femme en Ukraine, et puis après il s'est installé à Bruxelles, et pourquoi pas une quatrième. Et pourquoi pas un regroupement familial de quatre femmes, pourquoi pas. Tout ça c'est invraisemblable, mais c'est là au verset 23, les amis. C'est là au verset 23. Je pourrais en raconter beaucoup sur tous ceux qui sont passés chez nous, mais voilà, c'est un exemple. Pour ma part, cet homme, Jésus est mort sur la croix pour lui, comme pour les autres, et pour ces trois ou quatre femmes. Et je pense que le salut est possible pour eux, si c'est dans le plan de Dieu de les sauver, et s'ils trouvent sur leur chemin quelqu'un de courageux pour les retrouver et pour leur parler. Et il se peut que cet homme revienne chez moi, chez nous, ici, et que je puisse lui parler du salut. Pourquoi pas ? Dieu est grand, nous avons déjà été surpris souvent à ce niveau-là. Alors, au niveau de l'amour humain, en Genèse chapitre 6, je serai très bref, mais c'est très important. Genèse 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, donc il y a des femmes, mais il y en avait dès le départ, c'était les sœurs d'Abel et Caïn. Mais après, il y a des filles, il y en a plus, semble-t-il. Les fils de Dieu, j'ai passé 3 jours pour étudier ces versets, et je vais vous dire, c'est un nom qui est donné dans certains textes de la Bible aux démons contre Dieu. Hein? Mais ils ont quand même été créés par Dieu, et quelque part, Dieu les aimait. S'ils se sont révoltés, bien sûr, ils iront en enfer, mais ils se sont révoltés, ils étaient quand même dans l'amour de Dieu au départ. Et c'est eux qui ont bafoué l'amour de Dieu et qui le rejettent. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, donc par les yeux de nombreux hommes, ces démons attisent, les convoitisent, les idées lubriques des hommes, les fantasmes, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une force qui envahit un certain nombre d'individus pour voler des femmes et les violer, les enfermer, pourquoi pas les harems, n'est-ce pas ? Et ou tout simplement dans une relation apparemment de mariage qui ne dure pas, l'homme profite à fond et puis après il va voir autre part. Et clairement, ce sont sous l'effet de démons impurs, d'esprits impurs, que ça se produit. Les femmes étaient belles, si on regarde en hébreu, c'était quand même des filles un peu audacieuses qui manquaient de pudeur et qui ne se privaient pas de se montrer comme elles étaient. D'où c'est clair dans l'évangile, lorsqu'on parle de la pudeur, du voile, etc., c'est important. Mais le Seigneur est fâché. Pourquoi ? Regardons chapitre 6, verset 3. L'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » humanité, et ses jours seront de 120 ans. Dieu rabaisse la longueur des jours, 120 ans. Alors qu'avant c'était 600, 700, 800. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Donc on a affaire à une progéniture extrêmement puissante physiquement, et des personnes mauvaises. Regardez bien le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés de l'Antiquité. Ça a l'air d'être coupé ici. Est-ce que tu veux bien appeler Noémie ? Mon téléphone est coupé. Donc, les géants sont des personnes hors gabarit, si on veut, avec des volontés guerrières et des volontés... Ça va, c'est revenu. Des volontés de domination qui vont toucher toute l'humanité. C'est les héros fameux dans l'Antiquité. Donc, pensez à Nebuchadnezzar, Alexandre le Grand et bien d'autres dans l'histoire. Tous ces gens qui sont habités dans un esprit, Gengis Khan par exemple, et d'autres, pour dévorer les peuples, massacrer, tuer. Et donc, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Parce que ces fameux héros entraînent les autres, et les autres sont d'accord. Ils emboîtent le pas. C'est ça que vous voyez. Il y a une complicité collective, communautaire. Et donc Dieu décide d'exterminer une partie de la population par le déluge. Et il restera Noé et sa famille. Voilà donc au niveau de la tourmente sexuelle qu'il y a eu sur la terre. Et de la dégradation de l'amour humain. Alors, il faut bien se dire que à l'époque de Jésus, prenons Matthieu chapitre 5. À l'époque de Jésus, c'était pas toujours brillant non plus, même s'il y avait beaucoup de règles. À l'époque de Jésus, en Israël, il y avait 622 règles. Et il est évident que ça ne suffisait pas pour calmer les gens. Toutes les règles n'arrêtent pas le péché. Seule la repentance et le don du Saint-Esprit l'arrêtent. Alors, dans Matthieu, au chapitre 5... au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Donc, quand on est dans le mariage et qu'on pratique des relations sexuelles hors avec quelqu'un d'autre, tout en étant marié, que ce soit l'homme ou la femme, ça s'appelle un adultère. Jésus, lui, il ira plus loin en disant que même si on convoite des yeux, on est dans l'adultère. Ah oui, parce que le péché, parfois, on ne l'exécute pas, mais on le désire tellement, on en brûle. Au moment où on en brûle, qu'on le désire tellement, on est tellement séparé de Dieu, on est dans les pensées du péché, on est dans les pensées qui offensent Dieu. Donc c'est aussi grave, parfois, que de passer à l'acte pour Jésus. Nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit, le temple de la grâce divine, et quand on est dévoré par toutes sortes de choses à l'intérieur, on ne laisse aucune place à la grâce, aucune place à l'Esprit Saint. On laisse place aux pensées qui viennent du péché et de Satan. De Genèse 6. Alors, reprenons Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, donc c'est dans les 10 commandements, Exode chapitre 20, 10 commandements que Moïse a reçus et a transmis à Israël. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans Géhenne. Le risque, lorsqu'on est dans la convoitise perpétuelle au niveau sexuel, c'est de rester séparé de Dieu, d'approfondir le fossé définitivement quand on se plaît là-dedans. Et d'être condamnable. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Évidemment, avec une main, même avec les deux, on fait beaucoup en sexualité. Alors, et même si ce n'est pas avec une personne, on peut tourner le bouton de la télévision et regarder de la pornographie ou de l'Internet sur l'ordinateur. Avec les mains, on peut toucher le clavier et trouver ce qu'on veut. Et pour toucher aussi sur la zapette, trouver ce qu'on veut à la télévision. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Donc ça, c'est bien sûr Moïse qui a fait cette règle, qui a établi cette règle, et lui-même a divorcé, il a répudié Séphora et il a pris une femme éthiopienne. Dommage, malheureux, il va donner l'exemple. Bien qu'il ait beaucoup servi Dieu, il a chuté dans ce domaine-là. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Dans ce texte de Matthieu 5, verset 32, comme dans 19, Matthieu 19, on a deux fois cette parole. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Mais il y a une clause d'exclusion, sauf pour cas d'infidélité. Le mot infidélité dans le texte pornéa semble avoir deux sens. Le premier sens, c'est la femme, ou le mari, ça peut arriver aussi, sort de la foi. Et nous ne sommes plus liés par le lien du mariage. Sort de la foi, complètement, renie la foi. Chez les juifs, cette règle existait. Et il semble que dans les communautés chrétiennes, ici, grâce à cet enseignement de Matthieu 5 et Matthieu 19, c'était possible aussi, si une personne sortait de la foi chrétienne en Christ, que le mariage soit annulé. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut se remarier. Je ne suis pas là. C'est d'autres textes, ça. C'est d'autres textes. Je ne peux pas tout aborder aujourd'hui. Alors, pour cause d'infidélité, ça a un autre sens aussi. Pornéa a un autre sens, c'est la pratique sexuelle qui se répète, en cachette ou déclarée, peu importe, alors qu'on est en un conjoint ou une conjointe. Donc le mot pornéa a deux sens. Il est sûr que ce sont des cas que dans l'église de Jérusalem, on pouvait avec cette clause de sauf-conduit ou d'exclusion, on pouvait dire, on peut se séparer. Mais il est clair qu'il ne faut pas jouer avec ça. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve cela dans Matthieu, chapitre 19, évidemment. Je vous lis le verset pour que vous compreniez et vous sachiez où il est. Verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque, quelles que soient les raisons. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, une seule humanité. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule humanité. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Donc c'est à cause de votre péché. C'est le péché qui amène la répudiation. Rien d'autre. Donc c'est pas justifiable pour Jésus. Ça ne plaît pas à Dieu, ça, ni à Jésus. Alors, au commencement, il n'en était pas ainsi. Fin du verset 8. Verset 9 maintenant. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, et alors vous avez encore l'exclusion, sauf pour infidélité, et continuons, et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc, quelqu'un qui répudie sa femme en épouse une autre commet un adultère. Mais Dans le cas de l'infidélité, c'est-à-dire où la femme a commis des actes sexuels répétés avec d'autres, qui se sont confirmés, avérés vrais, il faut au moins deux témoins, fiables, ou qu'elle a perdu la foi, qu'elle la renie complètement, à ce moment-là, oui, on voit que cet homme peut se remarier. Certains pasteurs n'acceptent pas de tirer cette conclusion. Moi, je pense qu'un certain nombre de cas, on peut l'accepter, évidemment. Sortir de la foi. Et ça, ça pose un réel problème aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui connaissent la Bible et où il n'y a aucune nouvelle naissance. Puis l'autre évolue, il est né de nouveau, il grandit dans la foi, dans la relation vivante avec Dieu, et il y a un fossé. Un fossé. Il y en a un qui est dans la fidélité, la foi, l'autre est dans l'infidélité. Il est hors de la foi, alors qu'il prétend y être. C'est l'histoire du blé et de l'ivraie, des brebis et des boucs, des vierges folles et des vierges sages. C'est triste et c'est difficile pour un enseignant, pour un pasteur, parfois d'arbitrer tout cela. Mais ici, les disciples, au verset 10, disent ceci. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Voilà encore un signe du péché, c'est que les disciples se marient parce que c'est avantageux. Pour eux, pour leur égoïsme. Vous voyez que Jésus a fort à faire pour sanctifier ses disciples et pour les amener à une autre vue des choses. Et ça, c'est clair dans Éphésiens chapitre 5. Il est clair, il en va du mariage de l'homme et de la femme comme du mystère de Christ et de l'Église. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises à vos maris, respectez votre mari. Là, on voit clairement que il y a eu la Pentecôte. Il y a l'autorité de l'Esprit-Saint et de la parole de Dieu. Mais là, ici, on voit que les disciples rechignent. Parce qu'ils sont dans un esprit où on cherche, en tant qu'homme, son avantage. Ou dépend de la femme. Bien souvent, ça se passe encore comme ça maintenant. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on a des enfants et qu'on voudrait qu'ils soient éduqués dans les meilleures choses, dans les vertus chrétiennes, et qu'ils aient l'amour de Dieu, vous imaginez si le couple n'est pas vraiment uni. Vous vous rendez compte à quel point ça peut être une grande souffrance pour les enfants de voir que quelqu'un fait semblant et l'autre est profondément chrétien. Ou, tout simplement, que tous les deux font semblant et puis se séparent. Il y en a qui ne se séparent jamais aussi et qui ne s'aiment pas vraiment et qui n'aiment pas vraiment Christ, mais ils suivent des règles, des principes, et peut-être aussi pour préserver le patrimoine, les biens, la réputation. Tout cela, tous les cas de figure sont possibles, et je dirais qu'en amour, dans le domaine de l'amour, c'est là qu'on trouve les plus nombreuses escroqueries humaines et diaboliques. C'est très difficile, aujourd'hui, pour quelqu'un qui est responsable, comme pasteur ou comme ancien, de démêler le vrai du faux et d'aider une église à vivre saintement et sainement. C'est très difficile. Ça a toujours été difficile, évidemment. C'est pas d'aujourd'hui. Même à l'époque de Jésus. Même à l'époque des prophètes. Alors, si nous avons... Je vais vous rappeler un petit peu quelques principes que je vous ai donnés l'autre jour. Quand l'amour de Christ se déverse dans mon âme comme une cascade, que je sais que j'ai la contagion de Jésus, j'aime ce que Jésus m'a enseigné, je sais que Jésus a du charme dans ma vie et que Jésus a une infinie mansuétude, une infinie longanimité à mon égard. Il m'adresse sa parole parce que je la lis tous les jours et parce que je le prie. Et je sais alors que mon cœur l'écoute et je sais que je suis serviteur, petitement ou beaucoup, mais je suis toujours un serviteur. Et j'essaye d'apporter aux autres ce que Jésus me donne. C'est clair? Dieu qui a investi un désir d'éternité en moi, Ecclésias 3:11, a touché mon cœur et a mis l'éternité. Il a mis le Saint-Esprit en moi. Et cela peut réjouir mon cœur, réjouir le cœur d'un chrétien, d'une chrétienne dans un couple. Cela peut les animer. Ce n'est plus eux qui conduisent le couple. C'est l'autorité divine. Dans les principes que nous avons lus juste avant pour le mariage, il faut absolument, pour pouvoir y réussir, l'action divine de la grâce. Autrement, c'est un ensemble de règles et ça reste comme une noix qui va devenir vide. Peu à peu, elle va être mangée. Ce qui est dedans va être mangé. Et c'est comme ça qu'on retrouve dans les églises aujourd'hui, catholiques, protestantes, évangéliques. Finalement, c'est arrivé dans les églises évangéliques aussi. Dans les ordres religieux aussi. Beaucoup de mauvaises conduites et des divorces, des séparations. Une véritable hécatombe depuis à peu près 1945, disons. Pour tenir bon dans les principes divins, il faut non pas simplement les avoir lus et les aimer, il faut avoir reçu en nous l'auteur des principes, la force de l'auteur, le Saint-Esprit. Donc dans Romains chapitre 5, verset 5, je vous l'avais dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu est de sa volonté. Donc l'amour du mariage est aussi là-dedans. L'amour du mariage est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Comme l'amour de l'honnêteté, de ne pas voler, de ne pas mentir, est mis dans mon cœur par le Saint-Esprit. L'amour de la droiture, de la joie, l'amour de la joie, plutôt que de tirer la tronche tout le temps, et de rouspéter tout le temps, l'amour de la joie. C'est aussi une œuvre du Saint-Esprit, répandue en moi par Dieu et le Saint-Esprit. Donc l'onction de Dieu règne en nos vies. Premier épître de Jean, chapitre 2. Premier épître de Jean, chapitre 2. Pour le couple. Pas simplement pour aller à l'église, pour faire des prières, lire la Bible. Pour le couple. Pour l'amour humain. Et si c'est pour l'amour humain, c'est pour aussi les enfants qui vont le voir, qui vont le ressentir. Premier épître de Jean, chapitre 2, versets 25 à 27. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc Jésus. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc déjà dans les communautés, il y avait déjà des gens pour mettre la pagaille, évidemment. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, de Jésus, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, donc c'est le Saint-Esprit-là, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc l'onction, le don du Saint-Esprit, demeure dans l'enfant de Dieu, et il lui rappelle, et lui dit la vérité que Jésus a enseignée, et qui est en Jésus. Et automatiquement, on peut dire que un papa, une maman chrétienne qui ont cela en eux, quand ils ont des enfants, par exemple 5 ou 6 enfants, peut-être qu'il y en a un qui va accepter l'onction aussi, qui va accepter l'enseignement de Jésus, et que 5 vont dire non. Peut-être qu'il n'y en a même pas, ça viendra plus tard, ou pas du tout. Peut-être qu'il y en a 6 qui vont dire oui. Peut-être que 4 sur les 6 vont dire oui. Peut-être que 3 sur les 6 vont dire oui. Tout cela, c'est du domaine de la responsabilité personnelle des enfants arrivés à un certain âge. Et donc, la vie chrétienne, dans le Saint-Esprit, du papa et de la maman, ne sont pas une contrainte sur la conscience des enfants. Ce n'est pas une contrainte, c'est une source de vie. Mais si vous avez déjà regardé le film de Manon, c'est Manon Lescaut, je pense.
Manon des Sources, oui.
Vous voyez que le brave bossu, là, il va rechercher de l'eau très loin, il s'épuise, Et en fait, c'est son père qui a bouché la source pour le tuer à l'attache. Donc là, ici, on voit un père qui est mauvais, qui va faire la destruction de son fils. Mais imaginons que ce papa ait aimé cet homme sans savoir qui était son fils. Il n'ait pas bouché la source. Il aurait vu cet homme prospérer et puis un jour il aurait découvert que c'était son fils et ils auraient été heureux tous les deux. Dans le cas du film, ce papa se retrouve sans son fils et dans la torture morale et intérieure. Eh bien, on trouve parfois des parents chrétiens qui sont dans la torture morale intérieure au bout d'un certain nombre d'années parce qu'ils ont bouché la source. Ils n'ont pas réellement vécu comme le Seigneur leur demandait au moment où les enfants étaient petits, grandissaient et qu'ils avaient besoin de la source. Tout cela, ça montre bien que nous avons une responsabilité et n'est pas facile à assumer parce que nous sommes tous des êtres charnels, nous sommes tous des pécheurs.
Il y a parfois des pardons à donner.
Il y a beaucoup de choses à se pardonner dans une famille, beaucoup de choses sur lesquelles il faut parfois du temps, dans la prière, dans la repentance, pour que les choses se réparent. Et je pense que Dieu est bon, Dieu dans sa grâce peut changer toutes les choses qui touchent notre famille. Je ne crois pas que Dieu est indifférent à nos souffrances, il n'est pas indifférent à nos péchés, à nos égarements. Il nous aime même qu'on a des égarements. Il nous aime, il est fidèle et il peut nous récupérer, nous rattraper. Rattraper ses brebis perdues. C'est pour ça que je vous ai lu les textes l'autre jour de Jean 7, 47. Et quand les pharisiens disent aux huissiers, à ceux qu'ils avaient envoyés, aux gendarmes si vous voulez, pour arrêter Jésus, est-ce que vous aussi vous avez été séduit? Il est possible que quelqu'un qui n'était pas bon soit tout d'un coup séduit par Jésus. Et parmi les chefs, dans le même chapitre, au verset 42, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais ils n'en faisaient pas l'aveu. Il arrive que des gens sont touchés très, très fortement par Jésus, intérieurement. Ils n'osent rien dire, se camouflent, se cachent. Ils ont la honte. Mais Jésus avait promis que lorsqu'il mourrait sur la croix, dans Jean chapitre 12, qu'il attirerait tous les hommes à lui. Et ça, ce texte, pour moi, est une clé de bonheur pour chacun de nous. Je ne suis pas là pour mettre le doigt sur tout ce qu'on a fait, de travers.
On a tous fait.
Oui. Regardons Jean. Je suis là pour montrer que nous avons un grand Dieu, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour et de... Ça dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Jean 12, verset 31. « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. » C'est-à-dire, tout ce qui est mauvais sera mis de côté. Tout ce qui a sali le monde,